Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission Écho de ma commune de Radio Grand Ciel. Au micro, Claude Casal, à la technique, Claude Casal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Bouvier, conseiller départemental et surtout président du Parc régional du Perche. Le Parc régional du Perche dont vous avez certainement entendu parler et dont on va développer un peu les contours. Jean-Michel Bouvier, bonjour.
Bonjour Claude, merci de m'accueillir dans les locaux de Radio Grand Ciel pour essayer de vous donner quelques informations, quelques renseignements sur le parc naturel régional du Perche.
Alors le parc, on en parle, ça fait rêver quand on entend parler de parc, mais qu'est-ce que c'est que ce parc régional du Perche ?
Le parc naturel régional du Perche est une structure sous forme de syndicat mixte. Les parcs régionaux ont été créés en 1967 par le général de Gaulle.
C'est très ancien.
C'est très ancien et nous allons fêter les 50 ans du départ l'année prochaine et les 20 ans du parc naturel régional du Perche en 2018 également.
Voilà, une date qui va être...
Une date importante, 2018, pour le parc. Ça sera l'occasion pour nous de montrer notre savoir-faire, nos expérimentations, etc., etc.
Mais alors ce parc, ça couvre à peu près quel département, quelle région, quelle surface ?
Alors, les parcs, au niveau national, aujourd'hui, il y a 51 parcs. 51 parcs, ce sont des territoires qui ne sont pas sous cloche, où on peut travailler et expérimenter, où l'activité économique continue. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de projets de parcs en création qui frappent à la porte pour être reconnus comme parcs.
Bientôt, ce sera 60 parcs alors.
Bientôt, ce sera 60 parcs. Ouais. Le parc naturel du Perche a été créé en 1998. Au préalable, il y a eu une association d'études de création du parc qui a été créée en 1992 sur l'initiative de Jacques Dussoutour et de Jean-Claude Lenoir.
Oui, deux grandes personnalités de la région.
Ensuite, Jacques Dussoutour a été président du parc à sa création en 1998 et la suite a été reprise par Jean-Pierre Gérondeau, qui malheureusement est décédé en 2016 et j'ai été élu président du parc du Perche en juin 2016. Donc je suis président depuis le 1er juin 2016.
On vous souhaite une longévité aussi importante que notre ami Dussoutour que Gérondeau à la tête du parc.
C'est beaucoup de travail. Alors pour répondre à votre question... Le parc aujourd'hui, la particularité du parc du Perche, c'est sur deux départements, deux régions, donc deux départements Orne et Eure-et-Loire, deux régions, région Normandie et région Centre-Val de Loire.
Ça simplifie les choses, ça, d'être sur plusieurs régions.
Ah ben c'est sûr, ça permet de faire le grand écart et d'essayer de, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur les financements, mais d'essayer de joindre les différentes politiques des différentes régions, etc. Donc c'est quelquefois un petit peu compliqué. Aujourd'hui, le parc, c'est 97 communes.
Alors, 97
répartis sur les deux territoires, 54 dans l'Orne, 43 en Eure-et-Loire. Bon, on est pratiquement
à l'équilibre.
C'est 80 000 habitants.
80 000 habitants.
Et 190 000 hectares de territoire.
190 000 hectares, oui.
Bon, il y a quelques trous dans le gruyère, si je puis dire. Il y a quelques communes qui n'ont pas souhaité adhérer, mais elles sont au milieu du territoire, donc indirectement, elles bénéficient.
Elles en bénéficient tout de même.
Elles bénéficient des actions que nous menons, malgré
sans
tout.
Sans avoir à cotiser.
À cotiser. Alors, c'est une bonne transition. On peut parler de finances, si vous le souhaitez.
Oui, tout à fait, parce qu'une affaire de ce genre genre-là, c'est une véritable entreprise. Et donc, ça a nécessairement un budget.
Ça a des frais de fonctionnement, des collaborateurs.
Des ressources.
Alors, parlons ressources, si vous voulez.
Oui.
Le parc n'a pas un droit particulier. Donc, on applique le droit commun dans tous les domaines. Commun, il n'y a pas un droit qui est spécifique au parc. Sur les finances, on ne lève pas l'impôt. Donc, nous sommes totalement dépendants de nos financeurs. Alors, qui sont nos financeurs ? L'État. Les régions.
Les départements.
Et les communes. Alors, les communes, donc, pour reprendre à l'envers, chaque habitant cotise pour 1,30€.
1,30€.
1,30€
par an et par habitant.
Per capita. Les départements, pour faire simple, l'Eure-et-Loire, c'est environ 80 000€ par an. L'Orne, c'est 110 000. La région centre, ça doit être dans les 300 000. Et la région Normandie, 600 000€.
Oui, et ça puis, fait tout de même un budget de
alors, le budget, c'est essentiellement un budget de fonctionnement.
Ouais.
D'environ 3 millions d'euros, pour faire simple. Dans ces 3 millions d'euros, il y a 1,5 million, 1,4 million, 1,5 million d'actions, budget dédié à nos actions. Et le solde étant de fonctionnement, bien entendu, de tous les jours du parc. En investissement, on a un budget d'investissement de 200-300 000€. C'est ce qui permet de faire fonctionner la maison du parc, notamment, donc le domaine de Courboyer, qui est la propriété du syndicat mixte, acquisition qui a été faite en 1997.
C'était encore M. Dussautour.
Par M. Dussautour, bien sûr, pour le compte du parc. Donc, une des particularités du parc naturel régional du Perche, c'est ce domaine. Donc, c'est le manoir de Courboyer, avec ses dépendances, et un domaine de 60 hectares environ.
Qui permet d'être un peu démonstrateur.
Qui permet en effet d'être démonstrateur. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Il y a un verger cidricole conservatoire. Il y a des prairies où les percherons pâturent, bien entendu. Il y a des parties de bois. Il y a alors sur les parties un peu plus sauvage, où on fait des démonstrations de travail des percherons, etc. etc. La maison du parc attire, et quand même pour l'Orne, aujourd'hui le deuxième site le plus visité de l'Orne.
Ah oui.
Vous avez le Haras du Pin et la maison du parc. La maison du parc, c'est 36 000 visiteurs.
36 000 visiteurs. Ça commence à faire, là.
Ça commence à faire. Donc, vous avez les visiteurs qui viennent, bien sûr, de l'extérieur. Et ensuite, on a toutes les manifestations au cours de l'été, etc., qui attirent également énormément de monde.
On va revenir un petit peu sur tous ces projets, toutes ces activités. Mais auparavant, on va avoir une petite pause musicale. Je suis toujours avec Jean-Michel Bouvier, qui nous parle du parc régional du Perche, dont il assure la présidence. Jean-Michel Bouvier, revenons un petit peu sur toute cette activité. Donc, l'administration du parc représente effectivement un budget non négligeable, mais en retour, Dieu merci, je crois qu'il apporte tout de même pas mal à l'Eure-et-Loire et à l'Orne.
Les cotisations qui sont versées par les communes, 1,30€ par habitant, quand la collectivité a investi 1,30€, il y a un retour d'environ 23€ d'investissement, de dépenses, etc. On pourrait aussi parler de nos missions. On peut aller vers les actions phares qui ont été développées. Le parc a 5 grandes missions. C'est pas une invention du PNR Perche, c'est le canevas général des parcs. Après, ouais, on manœuvre dans ces parcs, et chaque parc, bien sûr, a sa charte. La charte est créée, élaborée, et elle est validée par le ministère de l'Environnement.
On peut la trouver où, cette charte ?
Au parc.
Au parc,
sur le site
sur le site internet.
On peut la trouver dans ces différents supports de communication.
Chers auditeurs, je vous invite à vous reporter au site pour pouvoir, je pense que le site c'est
Parc naturel du Perche.
Parc naturel, voilà, absolument.
PNR Perche.
Et donc d'aller
sur ce site. On parlait des missions, donc 5 grandes missions. La première, la protection de la nature et du patrimoine, la gestion du patrimoine naturel et culturel. Alors ça, on pourrait développer, si vous le souhaitez. L'aménagement du territoire,
oui.
Le développement économique et social, parce que ça, j'y suis très attaché. Nous sommes dans un parc, mais l'économie n'est pas bloqué pour autant. On peut installer des usines dans un parc. C'est un territoire qui n'est pas sous cloche.
C'est ouvert à la modernité. C'est pas une espèce de musée conservatoire qui fiche tout en l'état.
Pas du tout.
Par contre, qui demande qu'on respecte certaines règles. On y reviendra peut-être un petit peu après, en parlant d'urbanisme et d'aménagement.
Exact, d'aménagement, tout à fait. Alors, l'accueil, l'éducation, la formation, ça fait partie de nos missions. Et il y a un point sur lequel aussi nous travaillons beaucoup, c'est l'expérimentation. Nous en parlions tout à l'heure un peu hors antenne, on parlait de la route solaire, elle est sur le territoire du parc.
La fameuse route solaire dont on a parlé au niveau national, qui est située à Tourouvre et qui vient d'être inaugurée il y a quelques jours ou quelques semaines.
Tout à fait, par le ministre de l'Environnement. Et c'est une belle réussite. Bon, le parc, soyons objectifs, n'a pas participé, mais elle est quand même sur le territoire du parc. Sur notre travail pour l'environnement, tout ça, c'est pas neutre. Bon, sur l'expérimentation, on pourrait parler de l'expérimentation des espaces tests agricoles, par exemple à Bretoncelles, à Vaupillon, etc., pour un développement des circuits courts, d'une agriculture bio et autres. Voilà un petit peu. Alors, toutes ces missions sont cadrées dans notre charte. La charte nous est pas attribuée, le décret d'existence du parc ne nous est pas attribué ad vitam aeternam. Tous les 10 ans, notre charte est remise en cause.
Ah oui, elle fait l'objet tout de même d'une vérification.
Et nous devons rendre des comptes. Donc, il y a un système d'évaluation de nos actions et autres.
Ça veut dire qu'il y a une tutelle au niveau de l'État, alors.
Du ministère de l'Environnement.
C'est le ministère de l'Environnement qui assure la tutelle des parcs.
Exactement.
Et qui vérifie ou qui s'assure que ça a toujours une raison d'être ou que tel parc, au
bout de la durée de la charte, là, notre charte va venir à échéance en 2022, le ministère a prévu une prorogation de 3 ans, donc on devrait réviser notre charte en 2025. Donc quand nous allons représenter un nouveau projet de charte, il y aura une évaluation de la charte actuellement en cours, et si nous ne remplissons pas les critères, il peut arriver que le parc naturel régional du Perche ne soit plus à nouveau un parc naturel régional du Perche.
Ce qui serait un vrai problème.
Ça existait sur le territoire national. À ce sujet, la Normandie est bien dotée en parcs. On a 4 parcs naturels régionaux et le département en a 2. Le département de l'Orne en a 2, celui du Perche et celui de Maine-Normandie à Carouge.
Donc, protection de la nature et du patrimoine. Et c'est un élément.
Alors, protection de la nature et du patrimoine. Alors, parlons d'abord, si vous voulez, du patrimoine. Donc, ce sont dans le Perche les manoirs, les abbayes, les églises. Et quand je dis les abbayes, je pense peut-être à l'ouvrage de Philippe Boudet.
Qui vient de paraître
sur les abbayes du Perche.
Effectivement, très bel ouvrage où il décrit, et très bien illustré.
Alors notre mission, donc, c'est de sensibiliser, c'est un travail de sensibilisation, d'orientation, d'expérimentation. Et on a sur le patrimoine différentes actions. On a un inventaire du patrimoine bâti, bien entendu, qui est en cours dans différentes communes. Je vais parler de la Chapelle Monligeon, on vient de terminer le travail et ça, il y a eu un petit fascicule d'éditer, un très beau fascicule. Le travail est en cours sur Frazé, donc on essaie à chaque fois d'équilibrer Orne-Eure-et-Loire pour donner satisfaction un petit peu.
C'est un travail colossal que d'inventorier tout ce patrimoine, son état et ses points particuliers et caractéristiques, mais ô combien intéressant et instructif probablement.
Il y a un travail de pas d'archéologue, mais d'historien, de passionné du patrimoine. Donc il y a un chargé de mission au parc parmi les 30 collaborateurs. Il y a un chargé de mission qui est particulièrement dédié à ce travail. Comme tout à l'heure on parlait de l'évaluation de la charte, il y a un chargé de mission qui est en charge de cette évaluation.
Et qui doit être à l'occasion accompagné d'étudiants. L'occasion de stage extraordinaire, je pense.
Régulièrement, nous avons des étudiants. C'est cette semaine, je crois. Il y a un jury qui on est sur la biodiversité, qui va recruter un étudiant pour travailler sur un thème, sur l'eau, sur...
Alors le patrimoine naturel, là, on est toujours dans la nature. Je crois d'ailleurs que le parc veille à l'entretien des mares ou à la remise en état des mares ancestrales qui font partie de notre paysage et de la vie.
Le parc a une chargée de mission qui est dédiée à la restauration des mares depuis maintenant 3-4 ans. Il y a de bons résultats.
Oui, et c'est important d'entretenir ces mares.
Parce qu'on a toute la faune, la flore est autour de ces mares.
Exactement, ce sont des points très particuliers.
Exactement.
Et très fragiles.
Alors après, on a les haies. C'est un sujet que je ne vais pas... je peux le développer.
Mais ça mériterait...
Je ne veux pas l'éluder. Je peux quand même dire... dix ans, il y a eu des arrachages de haies, mais même l'action du parc, l'action des départements aussi, là je prends un petit peu ma casquette de conseiller départemental, des départements a quand même permis de replanter sur le territoire du parc 1000 km de haies.
Et puis les haies, il faut être objectif, une haie elle a besoin d'être régulièrement taillée et puis à l'occasion arrachée pour être régénérée.
C'est haies. Et puis il faut arriver à lier les conditions modernes de l'agriculture qui rencontre malgré tout des difficultés. On n'est plus à la période de l'après-guerre où il y a un maillage, important, mais on peut pas faire n'importe quoi.
Peu mécanisé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus mécanisé et ça implique des surfaces plus grandes.
Petit à petit, je pense qu'on prend conscience de l'utilité de ces haies. Déjà pour le maintien de certaines terres, pour éviter qu'il y ait des éboulements, et puis pour toute la biodiversité,
les animaux, les oiseaux, les petites fleurs, etc. Mais on a l'impression tout de même qu'un certain nombre de pâtures deviennent terres labourées et passent au grain. Est-ce que c'est un sentiment injustifié ou est-ce qu'effectivement il y a un petit peu cette tendance compte tenu de la conjoncture agricole actuelle?
Alors aujourd'hui, l'élevage est quand même en difficulté. Alors le parc est extrêmement vigilant sur ce sujet. C'est vrai que si le territoire du parc devenait uniquement céréalier, ça pourrait mettre en difficulté éventuellement l'existence même du parc, parce qu'on doit avoir quand même un territoire
ce serait plus le perche.
Nous sommes intervenus récemment auprès du préfet sur ces problèmes parce qu'il y avait un projet de suppression de primes sur les pâtures. Et c'est pour les agriculteurs, c'était pas neutre, c'était des sommes quand même assez importantes. Et dans le zonage qui avait été proposé par l'État, le parc du Perche était concerné. Donc on s'est sur cette
mobilisé. Il y a eu une mobilisation.
On s'est mobilisé. On a obtenu gain de cause pour la partie ornaise, et c'est en cours de discussion pour la partie eure-et-loire.
On avait bien vu le rôle de protection nature, patrimoine, mais vous aviez parlé d'un chapitre aménagement aussi dans l'émission.
Alors, les aménagements, par exemple, sur l'aménagement du territoire, on participe à l'élaboration en tant que personnes publiques à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme. Donc, d'accord. Lorsqu'une collectivité décide d'un nouveau zonage de ces zones constructibles, etc., ces zones industrielles, ces zones agricoles, ces zones naturelles, nous sommes interrogés et nous avons un avis à donner. Alors, cet avis est purement consultatif. Donc, nous devons faire œuvre de pédagogie pour, notamment, je pense à l'élaboration de ces plans locaux d'urbanisme, qui sont aujourd'hui plutôt des PLUI, sont des plans locaux d'urbanisme intercommunaux.
Mais qui sont essentiels, parce que
ils
tout
sont
de même,
essentiels pour le, pour avoir une anticipation dans l'organisation de nos communes. Le parc participe à ces travaux. Donc, c'est du conseil, hein, c'est du conseil, de l'animation, etc.
Et aménagement économique aussi. Enfin,
alors, l'aménagement économique, comme nous le disions tout à l'heure, au début de notre entretien, l'aménagement économique, le parc n'est pas un territoire sous cloche. Donc, on peut y créer des industries, des usines, etc. Donc, nous avons eu des actions importantes sur, il y a des produits phares du parc, la baguette du perche, je peux pas m'empêcher
oui, la baguette
de parler
du perche, effectivement.
La baguette du perche, hein, qui est quand même le résultat d'un travail important entre des agriculteurs, un minotier, des boulangers, etc. Donc c'est une
chaîne,
belle réalisation. On a la filière cidricole. C'est pas neutre. Donc, on est en démarche d'AOP. Bon, c'est un peu long, un peu compliqué, mais...
une appellation d'origine protégée. C'est ça, AOP.
Le dossier est prêt, il est complet. Il est dans le bureau du ministre, mais il y a encore des petits ajustements. Mais économiquement, la baguette du perche, ça a été très important pour les boulangers, les minotiers. Il y a, je crois, environ 37 boulangers qui distribuent
la baguette du perche,
qui la fabriquent.
Labellisée.
Et on essaie de la copier, mais on n'y arrive pas.
tant mieux.
Et le cidre, hein, sur la filière cidricole, les retombées économiques sont pas neutres. En 10 ans, je crois me souvenir que les producteurs de cidre ont quand même investi sur le territoire 2 millions d'euros, ce qui est quand même...
Ah oui, ce qui est tout de même conséquent.
C'est important en matériel, en plantation, etc. C'est quand même très important.
Oui, donc qui dit investissement de ce genre-là, dit main-d'œuvre derrière pour les récoltes, pour la production du cidre lui-même et tous ses dérivés.
Bon, parce que... c'est un créneau qui est malgré le cidre, c'est un créneau qui est quand même un peu difficile parce que c'est une boisson de base, le cidre, et toutes les régions ont leur cidre et toutes les régions essaient de vanter
les mérites de leurs produits.
Les mérites de leurs produits.
C'est normal.
C'est de bonne guerre.
Alors, accueil et éducation et formation, on l'a esquissé un tout petit
alors,
peu.
Alors, accueil, éducation, formation, c'est essentiellement l'accueil des élèves dans des séances de stage, initiation à la vannerie, etc., découverte du sentier pédagogique qui est sur le domaine de Courboyer. Nous, bon an, mal an, on reçoit dans les classes environ une dizaine de mille, je pense, d'élèves par an, quand même, qui viennent.
Sans toutes les. Oui.
Alors,
il y en a de tout le département, de la Sarthe.
De la Sarthe aussi, de la Sarthe.
Parce que la Sarthe est vraiment contiguë.
Il y a deux collaborateurs sur le parc qui sont dédiés à l'animation des sorties scolaires.
Vous avez, j'imagine, des relations aussi avec d'autres associations du genre les Amis du Perche ou ce type d'associations qui sont très attachées au patrimoine ou...
Bien sûr, nous sommes un lieu d'accueil, un lieu d'expérimentation, un lieu d'histoire. Donc, nous travaillons avec toutes les associations, les associations d'environnement, les associations culturelles, les sociétés savantes comme comme les amis du Perche. Hein.
Oui, oui.
Et nous travaillons actuellement à un rapprochement encore plus efficace avec les amis du Perche qui pourraient éventuellement participer à des thèmes un peu plus précis. L'année prochaine, à la Maison du Parc, il y aura une très belle exposition sur les manoirs et je crois qu'aujourd'hui, nos relations avec les amis du Perche pour travailler sur cette exposition sont assez
étroites. Mais alors, justement, là, vous parlez de l'année prochaine, du programme de l'année prochaine, mais le programme de cette année, il y a un certain nombre d'activités.
Alors,
le parc est tout de même actif.
On a un programme d'action assez soutenu sur l'agriculture, l'environnement, la pédagogie et sensibilisation, c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur les élèves, l'urbanisme, patrimoine bâti, et le tourisme, bien sûr.
Le tourisme.
Il y a un point sur lequel je souhaiterais faire un petit zoom, si je puis dire, c'est sur le tourisme. Un événement important, le Perche va accueillir l'année prochaine, fin juillet, début août, la semaine fédérale du cyclotourisme.
C'est 12... En 2018
2017.
Ah, vous dites ouais, l'année prochaine.
Ah ben, cette année, oui, je n'ai pas encore. 2017.
Donc, en juillet 2017, voilà, il y a
la semaine fédérale du cyclotourisme. C'est environ 12 000 cyclotouristes qui vont pédaler dans le Perche, qui vont randonner, etc. La Maison du Parc sera un point d'accueil.
Ah oui.
Donc,
oui.
Bon, il y aura un point de restauration, etc. C'est une grosse manifestation.
Avec accueillir 12 000 cyclotouristes.
Alors, ils sont accueillis à Mortagne et sur l'ensemble du territoire, hôtels, gîtes particuliers, etc.
Et ça va durer une semaine.
Ça va durer une semaine.
Oui, donc c'est un événement lourd.
Donc, qui est soutenu par la région, le département, l'État, etc.
Ça va être l'occasion d'utiliser la voie verte.
Ça va être l'occasion d'utiliser la voie verte
qui est très fréquentée,
qui est en cours de remise en état, qui va être reprise par le département de l'Orne.
Ah oui.
Donc ça, c'est une belle nouvelle. Donc aussi dans les actions, donc je vous parlais du patrimoine tout à l'heure. Notre inventaire du patrimoine va être continué. On va finir celui de Frasé et il est probable qu'on lance ensuite l'inventaire du patrimoine sur Saint-Jean-Pierre-Fixte. Mais sur le patrimoine, il y a un point sur lequel je souhaiterais insister, sur l'effet quand même moteur du parc, c'est le patrimoine bâti. Certains artisans d'abord un certain nombre d'artisans ont la dénomination marque parc.
Qui est une marque de qualité, de savoir-faire.
Ça leur permet d'avoir certains critères dans le travail qu'ils font, un certain savoir-faire. Ça, c'est important. Ça a permis quand même les percherons de souche de prendre conscience qu'ils avaient un très beau patrimoine que l'on mettait pas forcément en valeur. Parce que ce sont les Parisiens qui ont été très moteurs dans ce
domaine. Je pense que les Parisiens ont tout de même beaucoup aidé dans ce domaine.
Étant percherons, je le dis haut et fort, grâce aux Parisiens, les percherons ont pris conscience, aux Parisiens, aux résidents secondaires, les percherons ont pris conscience que
le patrimoine bâti. Mais il faut dire aussi qu'il y a un corps d'artisans qui est aussi
très compétent. Il y a de très bons artisans. Et l'action du parc n'est pas insignifiante dans ce domaine-là.
Voilà. Bon, je pense que nous avons fait un grand tour sur ce parc régional du Perche. Jean-Michel Bouvier, il me reste à vous remercier. Je crois qu'on pourrait encore en parler très longuement, mais il y a bien un moment où il faut qu'on s'arrête.
Claude, je vous remercie de m'avoir accueilli dans les locaux de Radio Grand Ciel. Et je suis un jeune président du parc, si je puis dire, puisqu'il n'y a pas très longtemps que j'ai cette fonction. Mais je me pique au jeu. Et le sujet est très intéressant. Et puis, malgré tout, ce sont mes racines. Donc, je les défends. Et ce parc, je le dis régulièrement, c'est pas une structure, c'est pas un territoire pour quelques résidents secondaires ou quelques personnes, c'est un territoire pour tous. Les résidents secondaires, les agriculteurs, les industriels, c'est pour tous.
Eh bien, longue vie au parc et encore merci beaucoup.